Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et nos experts au sein de la rédaction, nos correspondants, nos envoyés spéciaux, vous répondent en direct, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, sans oublier évidemment de nous indiquer en message privé vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler le plus vite possible. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous dresserons tout à l'heure un bilan de l'après Compaoré au Burkina Faso. Cela fait 4 ans que Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir par la rue alors qu'il voulait, rappelez-vous, modifier la constitution pour briguer un cinquième mandat et s'éterniser au pouvoir. Hier, 31 octobre, le Burkina Faso a commémoré les victimes du soulèvement populaire, les héros qui se sont battus pour la démocratie, pour reprendre les propos du président Roch Marc-Christian Kabore. Mais 4 ans plus tard, que reste-t-il de l'euphorie suscitée à l'époque? Quel bilan dressez-vous de l'après Compaoré? Vous qui nous écoutez en ce moment au Burkina Faso, appelez-nous, dites-nous si vous avez constaté des avancées. Là aussi, on vous attend au standard 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions, une question... Tiens, on va commencer avec une question sur l'avenir politique d'Angela Merkel. Bonjour Ethan.
Bonjour Yvan.
Bienvenue. Vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun.
Oui, c'était ça.
On vous écoute.
Angela Merkel, chancelière depuis le 22 novembre 2005, a annoncé son départ de la scène politique suite à l'accusante défaite aux élections régionales. Ma question est de savoir quel sera l'impact de cette décision jusqu'à la fin de son mandat, que je rappelle en 2021, et quelles en seront les conséquences au niveau européen.
Allez, c'est une excellente question que vous posez. C'est vrai qu'Angela Merkel quittera le pouvoir à la fin de son mandat en 2021. Et on peut se demander si son autorité, son influence ne risque pas de s'effriter de mois en mois, puisqu'elle annonce dès maintenant, soit 3 ans avant l'échéance, qu'elle ne se représentera plus. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Ethan.
Correspondant de RFI à Berlin, quel impact cette annonce peut-elle avoir sur la suite du mandat d'Angela Merkel?
Alors, d'un côté, sur le papier, c'est un peu same procedure as usual, puisqu'Angela Merkel reste en poste encore pendant 3 ans, avec une majorité stable, une grande coalition au Parlement qui lui permet de gouverner. Mais, effectivement, puisque maintenant son départ est préprogrammé, ne risque-t-elle pas de perdre un peu plus de son autorité, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, en Europe ou au-delà? Et puis aussi, l'autre question, c'est que puisque début décembre, elle va abandonner la direction de la CDU, si un candidat plus conservateur avec lequel peut-être elle a des frictions est élu, est-ce que aussi la gestion des affaires en Allemagne ne va pas être plus compliquée? Tiendra-t-elle même jusqu'en 2021? Hier, l'ancien patron du SPD, Sigmar Gabriel, estimait qu'en 2019, après les élections européennes, eh bien Angela Merkel tirait sa révérence.
Oui, c'est vrai que plusieurs personnalités ne cachent pas leur scepticisme quant à la possibilité pour Angela Merkel d'aller jusqu'au bout de son mandat. Vous citiez l'ancien ministre des Affaires étrangères, le président de la Chambre, qui fut ministre des Finances de la chancelière, a déclaré au lendemain des élections de dimanche que la législature actuelle doit durer 3 ans. Nous verrons bien si cela sera effectivement le cas. Donc lui aussi s'interroge ouvertement, clairement, quant à l'avenir d'Angela Merkel. Sur la scène européenne, Pascal Thibault, on sait que l'Union européenne perdra, avec le départ d'Angela Merkel, l'un de ses principaux leaders. Là aussi, est-ce que l'Allemagne ne risque pas de ressortir affaiblie?
C'est effectivement un risque que certains craignent. Angela Merkel est un peu perçue du raison de sa longévité politique. Elle est depuis 13 ans au pouvoir, du fait de la puissance de l'Allemagne, de son importance sur la scène diplomatique, un peu comme un pilier partisane du multilatéralisme, opposé au populisme, et par rapport à d'autres partenaires qui ont des positions différentes, donc qui sont peut-être trop neufs sur la scène politique. D'un autre côté, on peut aussi dire que c'est peut-être un petit peu naïf, parce qu'il était quand même plus ou moins clair qu'un jour Angela Merkel finirait par partir et que ce mandat était probablement déjà quand même acquis comme étant le dernier. Mais en tout cas, on a vu par exemple le commissaire européen et par ailleurs allemand Günther Oettinger se féliciter du fait qu'elle veuille rester au pouvoir jusqu'en 2021, dans la mesure où effectivement des défis importants sont programmés pour l'Europe, le Brexit, les élections européennes, le budget italien, etc., etc. Donc un certain nombre sans doute de responsables qui souhaitent qu'elle reste au pouvoir se féliciteraient si elle tenait jusqu'au bout de cette législature.
Et encore faut-il qu'elle ait la motivation suffisante si elle reste jusqu'en 2021 pour qu'elle continue à s'engager sur l'Europe. Ethan, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Johan, oui, je suis vraiment satisfait.
Eh bien, on remercie Pascal Thibault d'avoir été en direct avec nous de Berlin. Bonne journée à tous les deux, il est 9h16 à Paris. Bonjour Guilhem Delteille.
Bonjour Juan.
Correspondant de RFI à Jérusalem, nous vous avons contacté ce matin car Idriss, qui est en Côte d'Ivoire, a plusieurs questions à vous poser. Bonjour Idriss.
Bonjour Juan, bonjour à mon très cher Paul Khalife et bonjour à Guilhem Delteille depuis Jérusalem et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Paul Khalife qui est notre correspondant à Beyrouth, on le salue évidemment s'il nous écoute. Alors Idriss, vous avez des questions sur la visite surprise du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le Sultanat d'Oman, c'était la semaine dernière.
Exactement. La semaine dernière, Juan, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu dans le Sultanat d'Oman pour une visite officielle inédite et gardée secrète, alors que les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Alors, ma première question est la suivante. Juan, un premier contact avait été établi entre les deux pays dans les années 90, mais sans succès. Alors, comment expliquer cette reprise des relations ?
Alors, c'est vrai que cette visite est restée secrète, elle ne figurait pas à l'agenda de Benjamin Netanyahou. Guilhem Delteille, Idriss visiblement suit des près l'évolution des relations entre ces deux pays. Effectivement, il y a eu des premières avancées dans les relations entre les deux pays, bien avant les années 90, comme le disait à l'instant notre auditeur. Mais pourquoi les contacts avaient fini par être rompus ?
En fait, les premiers contacts entre Oman et Israël ont été établis dans les années 70. C'était peu de temps après l'arrivée au pouvoir à Mascat du sultan Qaboos. Ces contacts sont devenus publics après la signature des accords d'Oslo. Donc là, on arrive effectivement dans les années 90. C'était en 1993, ces accords de paix israélo-palestiniens. Yitzhak Rabin avait été le premier ministre israélien à se rendre à Mascat. Shimon Peres, ensuite, avait aussi rencontré officiellement le sultan Qaboos. Lui aussi, en sa qualité de chef du gouvernement israélien. Une représentation commerciale israélienne avait été ouverte à Mascat en 1994. Donc ces contacts avaient quand même bien avancé, mais un froid s'est réinstallé entre les deux pays en 2000 avec le début de la seconde intifada. C'est cette révolte palestinienne qui a été déclenchée par la visite sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem d'Ariel Sharon, alors le chef de l'opposition israélienne. La représentation commerciale israélienne à Mascat du coup avait été fermée. Israël n'avait plus alors dans la région des liens qu'avec le Qatar, où il avait aussi une représentation commerciale dans l'Émirat, qui elle aussi a finalement été fermée en 2009, et depuis il n'existait plus de lien officiel entre Israël et les pays de la péninsule arabique.
Et alors justement, Guilhem Delteille, expliquez-nous pourquoi ces liens ont-ils été renoués la semaine dernière de manière, disons-le, ostentatoire ?
Alors oui, effectivement, des liens secrets avaient été renoués il y a quelques années déjà, mais vous avez raison de dire que cette fois-ci, ils ont été renoués de manière ostentatoire. Ils ont été véritablement exhibés la semaine dernière. La visite de Benjamin Netanyahou a été annoncée de manière simultanée par les deux pays, en Israël et donc à Oman, après le retour de Benjamin Netanyahou en Israël. Mais si le communiqué était assez lapidaire, les dirigeants ont diffusé plusieurs photos de leur rencontre. On voit notamment Benjamin Netanyahou tout sourire aux côtés du sultan. La télévision omanaise, elle a diffusé une vidéo de plus de 3 minutes avec une musique assez pompeuse comme ça qui montrait aussi la visite, la rencontre entre Benjamin Netanyahou et le sultan Qaboos. C'était véritablement fait donc pour être mis en scène tout ça. Alors pourquoi maintenant ? Mais alors, d'une part, cela fait des années que Benjamin Netanyahou assure que les relations d'Israël avec les pays arabes s'améliorent. C'est particulièrement vrai avec les pays du Golfe. Et si cette visite est un geste assez exceptionnel, il y en avait eu d'autres, plus petits, qui allaient dans cette direction. Des athlètes israéliens ont été invités à plusieurs reprises à participer à des compétitions sportives sous leur drapeau. Le prince héritier saoudien avait déclaré au printemps dernier dans une interview qu'Israël a le droit d'exister, ce qui était une reconnaissance un petit peu en creux de l'existence d'Israël. Donc cette visite de Benjamin Netanyahou, elle confirme cette tendance, d'ailleurs encouragée par l'administration Trump, qui cherche à renforcer les liens entre les pays de la péninsule arabique, Arabie Saoudite en tête, et Israël. Et pour Israël, l'intérêt est de rompre son isolement diplomatique au Moyen-Orient. Pour Oman, l'intérêt est de renforcer sa position de médiateur. C'est le sultanat, je vous rappelle, qui avait servi d'intermédiaire entre l'administration Obama et l'Iran pour la négociation de l'accord sur le nucléaire iranien. Il pourrait maintenant servir de médiateur entre Israéliens et Palestiniens, voire entre Israël et son ennemi juré qui est l'Iran.
Alors, Idriss, vous avez une dernière question, il me semble.
Oui, et une deuxième question, Juan, est la suivante. Juan, l'Égypte et la Jordanie sont les deux pays, sont les deux seuls pays arabes à avoir des relations diplomatiques avec Israël. Cela pourrait-il inciter d'autres pays arabes à se rapprocher de l'État hébreu?
Guilhem Deltey.
Alors officiellement, les pays arabes restent fidèles à leur initiative de paix de 2002, l'initiative de la Ligue arabe, reconnaissance d'Israël en échange d'un retrait d'Israël des territoires palestiniens occupés après 67, ce qui inclut Jérusalem-Est. Mais c'est vrai qu'on voit les lignes bouger. Le voyage de Benjamin Netanyahou à Mascate en est un bon exemple. Alors il y a ces liens, encore une fois, existaient déjà. Ils sont peut-être désormais un petit peu plus publics qu'ils ne l'ont été auparavant. Ils se sont particulièrement renforcés, ces liens, face à l'Iran. Israël et les pays sunnites du Golfe partagent une crainte commune, voir l'Iran développer l'arme nucléaire, renforcer son influence dans la région. Et donc, effectivement, ça les a rapprochés. Ces liens sont bien réels. Ils sont relativement encore assez fragiles, néanmoins. On a pu voir, par exemple, ou ne pas entendre, surtout Israël évoquer l'affaire Jamal Khashoggi, sur laquelle à peu près tous les pays du monde ont réagi. Bien, le gouvernement israélien, lui, est resté silencieux sur cette affaire qui met l'Arabie Saoudite dans l'embarras. On sent que Israël ne veut pas mettre des bâtons dans les roues de ce rapprochement en cours en ce moment avec les pays arabes et notamment avec l'Arabie Saoudite et le régime de Riyad.
L'analyse de Guilhem Deltey, correspondant de RFI à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. Idriss, je vous souhaite une bonne journée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il est 8h23. Vos questions à la rédaction, appelez-nous, toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. On a parlé d'Angela Merkel, nous parlions à l'instant des relations entre Benjamin Netanyahou et le sultanat d'Oman. Maintenant, on va s'intéresser à la conquête spatiale, la première coopération spatiale entre la France et la Chine. La question nous vient du Burkina Faso. Ourana, bonjour.
Oui, bonjour, Anne, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Toutes mes excuses, je viens d'écorcher votre prénom. C'est Haruna et non pas Arana, excusez-moi. Haruna, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Ok, donc, Anne, il faut dire que la Chine, pour la première fois, vient de lancer un satellite en collaboration avec la France pour surveiller les changements climatiques. Donc, concrètement, que vont-ils observer?
Oui.
Et comment les informations recueillies vont-elles aider les scientifiques à mieux comprendre le fonctionnement du climat?
Oui, un satellite conçu par les agences spatiales françaises et chinoises. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Vous rentrez de Chine, vous avez eu la chance de pouvoir assister lundi au décollage de la fusée qui transportait ce satellite d'observation du climat. Le lancement est réussi, tout s'est bien passé.
Tout se passe très bien, le satellite est en orbite, il fonctionne, on est bien.
Il est à 529 km au-dessus de notre tête. Alors c'est un satellite, pour être précis, océanographique?
Oui, c'est son nom. C'est CFOSAT, donc c'est Chinese French Oceanography Satellite. Comme son nom l'indique, donc c'est de l'océanographie. Il y a deux instruments à bord. Un instrument français qui s'appelle SWIM, qui va étudier les vagues, donc leur direction, leur force, l'écart entre deux vagues. Et à côté de celui de cet instrument SWIM, il y a un instrument chinois qui s'appelle SCAT, qui lui va étudier les vents. Et donc l'idée, c'est de voir un peu la corrélation entre les deux, entre les vents à la surface de l'océan et les vagues. Ça a deux intérêts, très pratiques tout d'abord pour les prévisions météorologiques. Oui. On peut faire de la météorologie marine un peu plus précise, un peu plus poussée.
C'est-à-dire qu'on va prévoir par exemple de façon plus détaillée les cyclones?
Les cyclones à terme, oui, par exemple, puisqu'on peut en voir les effets un peu en amont du cyclone. Mais bon, après, ça va être surtout pour la marine marchande ou bon, tous les gens qui prennent des bateaux régulièrement. Ça, c'est le côté très pratique. Il y a un côté plus fondamental, puisque l'étude des océans, et notamment la surface des océans, est assez importante, puisque à l'interface entre les océans et l'atmosphère, il y a beaucoup d'échanges qui se font de température, de carbone. Le carbone est capté par les océans, à tel point qu'on dit que les océans sont un peu le moteur du climat qu'on a sur Terre, ce qui fait qu'il y a un climat qui est à peu près stable il peut y avoir une météo qui varie au jour le jour, mais il y a quand même des grandes tendances qui se dessinent sur plusieurs mois. C'est grâce aux océans qui vont transporter la chaleur tout autour de la planète, qui vont aplatir un peu toutes les différences, puisqu'ils ont une capacité de stockage et de libération de cette énergie, de cette température qui est assez grande. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu mieux, puisque on connaît ces phénomènes, mais pas trop dans le détail.
Et visiblement, je crois que c'est la première fois qu'on va pouvoir étudier en même temps les vents et les vagues.
Oui, c'est ça, oui. C'est tout l'intérêt. En fait, la France avait cet instrument qui permet d'étudier les vagues, ce qui est assez complexe à faire. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est assez complexe. Elle n'avait pas forcément les moyens de faire une mission toute seule. Il se trouve que la Chine avait un instrument qui permettait d'étudier les vents de surface en plus. Donc, les deux pays se sont rapprochés pour dire, bon, bah, mettons les deux instruments ensemble et faisons un unique satellite qui étudiera les deux phénomènes ensemble.
Ouais. Les informations recueillies vont aider les scientifiques à mieux étudier le climat. Disposera-t-on des premières informations?
Ça va pas tarder. Hein. Il faut donc le satellite a été mis sur orbite lundi matin. Il faut un bon mois une fois après sa mise en orbite pour le calibrer, pour vérifier que tout fonctionne bien. Et les premières campagnes de mesure vont débuter d'ici un petit mois. Donc dans le prochain trimestre, on commencera à avoir les premières mesures seront disponibles à la communauté scientifique chinoise et française.
Durée de vie de ce satellite 3 ans. Donc c'est relativement court. Haruna, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement.
Parfaitement. Alors moi j'en ai une, si vous le permettez, mais pour aller un peu plus loin dans la réflexion, Haruna est restée avec nous, peut-être que cela risque également de vous intéresser. On voit bien que ce satellite a des ambitions scientifiques, mais en même temps, il a fallu quand même plus d'une dizaine d'années de collaboration aux agences spatiales françaises et chinoises pour arriver à aboutir à ce satellite. Il y a un enjeu donc scientifique et en même temps, il y a aussi un enjeu géopolitique.
Ah clairement, mais là on voit bien la particularité du spatial dans la diplomatie spatiale peut s'affranchir parfois des règles terrestres. On va dire, puisque la Chine, c'est quand même la troisième puissance spatiale mondiale, hein, c'est avec les États-Unis et la Russie, c'est la seule qui s'est envoyé des hommes dans l'espace. Ils ont un programme qui couvre tous les champs du spatial, le militaire, l'observation du climat, la navigation, les télécoms. Et pourtant, il y a très très peu de coopération internationale, de projets qui sont montés avec la Chine, tout simplement parce qu'elle est complètement mise sur la touche par les États-Unis. Le Congrès américain interdit à la NASA de travailler avec la Chine. Il y a même ce qu'on appelle les normes ITAR. Donc en gros, c'est une liste de matériel fabriqué aux États-Unis qu'on ne peut pas envoyer en Chine.
D'accord.
Et quand on construit un satellite, en général, il y a quand même des pièces qu'on utilise qui viennent des États-Unis. Donc si on en a une, eh ben on peut pas lancer son satellite en Chine à cause du Congrès américain. Donc il a fallu s'affranchir de ces règles. Ça a posé quelques problèmes pour CFOSAT. Finalement, tout se passe bien. Là-dessus, la France a fait cette collaboration, puisque la France reste dans sa stratégie diplomatique. On parle à tout le monde, y compris à l'agence spatiale chinoise, pour faire ce type de projet, qui sera peut-être amené à se répéter. Il y a des discussions pour en faire d'autres. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le spatial, les collaborations internationales, puisque les projets sont tellement lourds aujourd'hui et les États consacrent pas des budgets suffisants pour pouvoir mener ces projets à bien tout seul. Il n'y a pas les épaules assez larges.
Merci Simon Rosé d'être venu nous raconter ce lancement, ce satellite qui s'appelle donc
CFOSAT. China French Oceanography Satellite.
Merci beaucoup d'être venu répondre à Haruna. Il est 9h29 à Paris. Une minute, on va retrouver l'ensemble de la rédaction, le service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra tout de suite après pour débattre ensemble de la situation au Burkina Faso, 4 ans après la chute de Blaise Compaoré. Que reste-t-il de l'euphorie suscitée le 31 octobre 2014? Rappelez-vous, ce jour-là, les Burkinabés étaient descendus massivement dans les rues de la capitale pour chasser le président Compaoré. Président Compaoré qui tentait de se maintenir au pouvoir en modifiant la constitution. Depuis 4 ans, avez-vous constaté des avancées, lesquelles? On a envie de vous entendre, donc appelez-nous, le standard est disponible, 33 9 693 693 70. Vos réactions, et elles sont nombreuses, sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion et le débat. Je vous rappelle la page officielle d'Appel sur l'actualité, RFI, Appel sur l'actualité, c'est la page Facebook.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.